Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue, il y a 100 ans, le 28 juin 1914, Sarajevo. À Vienne, Nicolas Sarnoncourt, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, un petit train de plaisir signé Johann Strauss. Petit train de plaisir, ça ne sera pas vraiment le cas quelques mois après. En tout cas, à Vienne, à l'été 1914, on danse sur un volcan. Hein. L'Empire d'Autriche, c'est l'homme malade de l'Europe, même si ce n'est pas le seul. La Russie tsariste se porte pas vraiment mieux après la révolution de 1905. Mais soyons clairs, le dimanche 28 juin 1914, on ne pense pas du tout à tout cela.
Thank you.
de quoi être enthousiaste avec la valse Empereur de Johann Strauss avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, que l'on peut imaginer jouant cette valse le dimanche 28 juin 1914 à Vienne, pourquoi pas, mais pas dirigée bien sûr par Nikolaus Harnoncourt comme ici sur France Musique, dans nos horizons chimériques consacrés à cette date fatidique, il y a 100 ans, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, et puis il y avait aussi son épouse. Promenade, c'est sans doute ce que faisaient la plupart des Français en ce beau, très beau dimanche 28 juin 1914. Promenade signée Albéric Magnard par Philippe Guillon Herbert, extrait d'une collection consacrée aux musiques autour de la Grande Guerre. Tout à l'heure, je vous ai signalé qu'il s'agissait de la valse de l'Empereur. C'était une façon vraiment maladroite de dire que ce beau Danube bleu ressemblait finalement à quelque chose qu'adorait l'Empereur d'Autriche-Hongrie, c'était bien le beau Danube bleu, c'était pas la valse de l'Empereur. Soyons très clairs là-dessus. Et puis soyons clairs aussi sur le fait que avant 1914, lorsque les pianistes, les compositeurs s'exprimaient avec uniquement la main gauche, étude pour la main gauche que l'on va entendre signée Félix Blumenfeld par exemple, à ce moment-là, c'est un jeu pianistique en quelque sorte. Après 14-18, c'est autre chose. Lorsque l'on compose pour la main gauche, c'est peut-être parce que le pianiste, par exemple, n'a plus de main droite. l'étude pour la main gauche de Félix Blumenfeld, une belle partition ici interprétée par Maxime Zecchini, qui enregistre d'ailleurs les partitions pour la main gauche d'avant 1914 ou de l'immédiate après-guerre, bien sûr. On pense au pianiste Paul Wittgenstein et aux compositions qu'il a suscitées chez pas mal de compositeurs suite à la perte de sa main droite et une partie de son bras droit. Ici, Maxime Zecchini, donc, on n'aurait pas pu entendre Blumenfeld jouer à la radio en 1914. Encore que, si, bien sûr, mais je vous dis une bêtise, le samedi en Belgique, par exemple. Le samedi, il y avait régulièrement, depuis le mois de mars 1914, des transmissions à la radio, des émissions régulières. Le premier concert avait été retransmis par TSF, la télégraphie sans fil, donc par TSF, le 28 mars 1914, dédié à la reine des Belges, Elisabeth. Et évidemment, les installations radio modernes furent dynamitées au moment de l'invasion allemande. C'était le 19 août 1914, ça. Et il faudra attendre 1923 pour que la Belgique ensuite retrouve une station de radiodiffusion. Et puis on sait ce qu'est devenue ensuite la radio en Belgique, en France ou ailleurs. Nous sommes dans Mamerloy de Maurice Ravel avec l'Orchestre Philharmonia dirigé par quelqu'un qui avait quelques semaines à peine en juin 1914. Je parlais de Carlo Maria Giulini, Mamerloy, parce que figurez-vous que c'était une œuvre, je dirais, souvent jouée à l'époque, une œuvre toute récente de Maurice Ravel. Je pense à un grand bal qui avait eu quelques semaines avant ce mois de juin à Lyon, au début du printemps. Un grand bal, un grand concert au cours duquel on entendait du Rameau, puis des airs des Noces de Figaro de Mozart, des airs de Judas Maccabée de Handel, du Giordani du Martini, des chansons du XVIIIe siècle si vous voulez, et puis les contes de Mamerloy avec ses entretiens de la Belle et la Bête, et pour finir du César Franck, l'Arlésienne de Bizet. Pourquoi est-ce que je vous parle de Lyon en 1914? Parce que peut-être que ce dimanche 28 juin, une grande partie des regards de la France était tournée vers Lyon.
Thank you.
L'oiseau de feu, Igor Stravinsky, j'ai choisi une version particulière qu'on n'aurait pas pu imaginer en 1914, parce que d'un côté il y a les Anglais, l'Orchestre Symphonique de Londres, et de l'autre un chef hongrois, et effectivement, il y avait les ennemis de l'époque. Hein. Le chef hongrois, c'est Antal Dorati. Mais ça, ce fut enregistré beaucoup plus tard, évidemment, vous l'entendez, avec cette magnifique stéréo, 1959, l'enregistrement de cet oiseau de feu. Les ballets russes sont passés à Lyon en 1913-1914. Je vous parlais de Lyon, oui, parce que je vous disais que le 28 juin 1914, tous les regards étaient peut-être tournés vers la ville de Lyon parce qu'elle était en fête. Et figurez-vous que depuis le 1er mai, il y avait une vaste exposition internationale à Lyon qui avait pour thème Lyon, centre du monde, ni plus ni moins. On y venait de tous les pays, vous l'avez compris, pour admirer, et bien pour admirer les 800 stands de nouveautés techniques, pour écouter aussi des spectacles et des concerts prévus à cette occasion. Reste que ce jour-là, ce ne sont pas les concerts qui proposaient du Debussy, du Ravel, du Moussorgski ou du Stravinsky que l'histoire a retenu. Pas plus d'ailleurs que le nom de chanteurs mondialement célèbres comme par exemple Chaliapin. Дорогие! Scène du couronnement de Boris Godounov de Modeste Moussorski par Fedor Chaliapine, qui est passé à Lyon, qui est passé à Paris, qui est venu en France chanter. Ici, c'était plus tard, en 1925, avec le chœur et l'orchestre dirigé par Albert Coates. C'est le temps de l'amitié franco-russe. Et je vous parlais de Lyon et de cette exposition absolument incroyable et oubliée, d'ailleurs. Centre du monde de mai 1914 à novembre 1914. Plus de 17 000 entreprises étaient là. Et puis des concerts, des spectacles. Il y a d'ailleurs eu à Lyon, au musée Cadagne, je dirais il y a quelques mois, une exposition sur ce qui se passait en 1914. Ce qui se passait en 14, eh bien, c'était deux chanteurs mondialement célèbres. Je vous ai évoqué Chaliapine. Voici l'autre, Caruso. Sérénade de Don Juan de Tchaïkovski, en français, par Caruso, enregistré en janvier 1914, mais le 28 juin, l'attentat de Sarajevo, cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre. C'est ce qui se passe là-bas qui immédiatement retient l'attention internationale, poussant, on le sait, les tensions à leur comble.
Thank you.
Et s'il revenait un jour, que faut-il lui dire? Dites-lui qu'on l'attendait jusqu'à s'en mourir. C'était une mélodie de Zemlinsky par Violetta Urmana, l'orchestre philharmonique de Cologne, dirigé par James Conlon. En un mois, en 14, on sait, hein, l'engrenage des alliances fait tout basculer. Été 14, au coup de pistolet de Sarajevo, répond le 31 juillet, celui du Café du Croissant à Paris, et à l'horizon, l'horreur d'une guerre mondiale.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couverts de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Jacques Brel, merci à l'équipe d'aujourd'hui, José Bernès, Michael Fontanias, Jean-René Bonisson et Éric Lancien.